les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de la maltraitance des enfants. En France, au moins un enfant meurt chaque jour à la suite de mauvais traitements dans sa famille. Et à chaque fois, il y a cette même question. Que font les services sociaux? Pourquoi n'ont-ils rien vu? Mais que dire du rôle de l'école? L'école qui côtoie les enfants toute la journée, tous les jours de la semaine. Un enseignant s'interroge sur son silence, sa culpabilité, alors qu'une de ses anciennes élèves vient lui demander de l'écrire, de l'aider à écrire son témoignage. Bonjour Pierre Gemme.
Bonjour.
C'est comme ça que ça s'est passé. Vous publiez avec Léa un livre singulier, écrit à quatre mains, L'Instit et l'Enfant, aux éditions Plomb. L'Enfant, c'est celle que vous étiez. Bonjour Léa.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez 18 ans.
Oui.
Vous avez votre bac et vous avez commencé des études. Vous préparez un concours pour devenir pompier professionnel. Vous êtes pompier...
Volontaire.
Et vous racontez avec Pierre Gemme une maltraitance ordinaire d'un père alcoolique, des insultes, des coups, des travaux forcés dans le jardin, et puis aussi des séquelles pour la vie. Vous allez nous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi vous n'avez pas pu être protégé jusqu'à l'âge de 14 ans et demi, et même au-delà ensuite d'un conjoint de votre maman. On reçoit régulièrement à ce micro des enfants maltraités, devenus adultes, avec des métiers dédiés aux autres, éducateurs, policiers, avocats. Ça vous semble une évidence ou pas pour vous ?
Je sais pas trop. Après, c'est vrai que je connais beaucoup de personnes qui ont eu des traumatismes dans leur enfance, qui aujourd'hui sont au service des autres. Alors je sais pas, peut-être que l'envie de changer ça, certainement.
Votre livre, en tout cas, place la société devant une responsabilité collective. Comment mieux protéger les enfants? Quelles sont aussi les pistes de prévention précoce qui émergent? Et quant à vous, bien sûr, les voisins, si vous vous sentez concerné par le sujet, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous lis quelques messages, évidemment vous pouvez les commenter. On a deux messages de voisins ivoiriens intéressants. Seydou qui est à Abidjan. Dans mon quartier à Abobo, nous dit Seydou, on est confronté en ce moment à une forte pénurie d'eau qui dure depuis 6 ans. Et donc on est obligé d'aller transporter l'eau au bord du goudron dans les lavages auto qui s'y trouvent. Ce sont des enfants de 10 à 15 ans qui, avec des bassines, des bidons et parfois à l'aide de brouettes, font quotidiennement ce travail. Certains parents ont fait de cela leur source de revenus en exploitant des gamins qui vont charger les bidons, moyennant de l'argent. Nos autorités passent, ils le savent, mais s'en moquent. À qui la faute ? Diomandé est à Abidjan aussi. Il nous dit que la maltraitance marque à vie tout enfant. C'est un phénomène de plus en plus combattu ici par le gouvernement ivoirien, mais beaucoup d'enfants échappent encore à cette protection. Les petites vendeuses d'eau qui errent à tous les feux tricolores sont traitées comme des esclaves par leur patronne, sous le regard passif de nos autorités. On pourrait aussi avoir des auditeurs qui nous parlent des enfants talibés au Sénégal qui mendient pour le compte d'un marabout et ne bénéficient d'aucun soin. Vous avez connu beaucoup de travaux lourds, difficiles pour la petite fille que vous étiez, Léa, non ?
Oui, assez. Des travaux, des sauts de pierre à porter à longueur de journée sous une chaleur pas possible l'été, des trous à creuser, une fosse, des bassins.
À quel âge ?
Entre 8 et 12, 13 ans.
Votre père vous demandait de creuser un bassin dans son jardin ?
Oui, ainsi qu'une fosse de plusieurs... 2 ou 3 mètres de profondeur, il fallait aussi trier la terre des cailloux, c'est des petites choses mais que des enfants peuvent aider, mais pas un rythme comme
je l'ai
été.
Et lui ne travaillait pas, lui ?
Non, il supervisait, il était à l'ombre sur un transat, puis il nous regardait.
Et si vous refusiez de faire ce travail, qui vous a d'ailleurs laissé la colonne vertébrale en compote, je crois ?
Malheur à nous,
ouais.
Malheur à nous, oui.
C'est-à-dire ?
On avait des représailles assez lourdes.
Physique ?
Oui, physique et puis verbal également.
Appelez-nous les voisins et les voisines, on parle de la maltraitance, mais surtout, quelle est la responsabilité de la société ?
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
On est en ligne avec un voisin qui nous appelle du Tchad, N'Djamena. Bonjour Rosanna.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous nous avez appelé pour nous parler de votre histoire personnelle. Rosanna, vous avez été un enfant maltraité. Vous en avez beaucoup souffert.
Oui. Et tout d'abord, la maltraitance des enfants était un problème crucial en Afrique et particulièrement au Tchad. Nos parents nous ont fait comprendre avec cette formule que l'homme doit travailler avant de se nourrir. Il doit souffrir avant de gagner son pain. Donc, ils soumettent des enfants à des travaux qui parfois dépassent même leur âge. Mmh.
Pour vous, ça a commencé à quel âge, Rosanna?
Moi, personnellement, c'est à l'âge de 5 à 6 ans. Et quand j'étais adopté, j'ai l'obligation d'arroser chaque matin le jardin avant d'aller à l'école.
Et de porter donc des charges d'eau très, très lourdes. Est-ce que tout au long de ces années, de cette enfance très difficile, est-ce que vous avez trouvé du soutien auprès des voisins, de la communauté qui a tenté de s'interposer?
Non, aucun soutien. Tout le monde trouve normal ce que je fais. Et quand j'essaie de me lamenter, on me traite à un enfant paresseux.
Un enfant paresseux.
Que je dois oui, un enfant paresseux. Quand j'essaie de parler ça aux gens, on me traite plutôt à un enfant paresseux, à un enfant qui ne veut pas travailler. Parce que pour eux, un bon enfant doit vraiment souffrir, doit faire tout avant de trouver quelque chose de mettre sous les dents. Donc, c'est tout le moment que j'ai passé m'a vraiment laissé des mauvais souvenirs. Et aujourd'hui, quand je fais face à ceux-là qui m'ont vraiment soumis à de tels traitements, cela me donne de la haine, quoi. Hein, ça me donne de la haine de voir de telles souffrances.
Rosanna, merci de nous avoir appelés. Léa, la haine, la colère, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre livre. À l'époque, c'était aussi une façon... Comment elle se manifestait, cette haine, cette colère?
Déjà, je ne la ressortais pas beaucoup, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir quelques émotions que ce soit. Et puis, dès qu'il y avait de la colère ou de la haine, je sortais, je faisais du sport, je courais, et puis ça s'évacuait. Ou alors la musique aussi, j'avais un certain nombre d'heures de musique par semaine. Ça aide à évacuer, puis à s'exprimer indirectement au final.
Et puis aussi, il y avait ce que vous appeliez un peu les mauvaises blagues pour vous venger de votre père, hein, c'est-à-dire de lui abîmer des choses auxquelles il tenait sans qu'il sache que cela venait de vous.
Oui, après il savait plus ou moins, je pense, parce qu'on était un peu ligués avec mes sœurs. C'était des bêtises d'enfants, hein. C'était coller des pages d'encyclopédie auxquelles il tenait beaucoup, c'était des œufs pourris sous le lit, c'était... Par exemple, il avait planté un pommier tout récent, tout jeune. On avait mis des produits chimiques au niveau des racines.
C'était une façon aussi de ne pas rester passive par rapport à la souffrance dont vous étiez victime. Aliou nous appelle dans l'extrême nord du Cameroun, à Maroua, au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Aliou.
Oui, bonjour Madame Manuel.
Aliou, on parle de l'enfance maltraitée aujourd'hui. Vous êtes né dans une famille de 10 enfants, c'est bien cela?
Oui, madame.
Quelle a été votre situation?
Vraiment, madame, à l'extrême au Cameroun, et plus précisément dans ma famille, on subit vraiment des maltraitances de la part de nos parents, qui consiste à aller dans les champs de 6 heures pour rentrer à 18 heures, et parfois même si vous rentrez à 14 heures, vous êtes obligé de partir avec le troupeau dans la brousse pour rentrer également à 18 heures. C'est vraiment un phénomène que nous vivons quotidiennement ici en Afrique, madame.
Vous êtes le seul dans la famille de 10 enfants à être allé à l'école?
Oui, madame.
Comment ça se fait? Comment vous avez pu avoir cette chance?
Bon, cette chance, parce que je suis avant-dernier dans la famille. J'ai eu cette chance... l'occasion de ma mère qui voit dans l'entourage les enfants de nos voisins qui partent à l'école. Elle a dit, bon, toi, Ali, comme tu aimes vraiment l'école, je vais quand même faire de mon effort pour t'amener. Parce que quand je rentre du champ à 18h, je pars parfois dans la nuit chez le voisin pour ne serait-ce que apprendre à compter en français. à parler, en fait, à apprendre quelques mots en français.
Aliou, est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, vous avez 27 ans, donc cette enfance que vous nous racontez, c'était il y a plus de 20 ans. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la société au Cameroun change et plus sensibilisée à la maltraitance dont sont victimes les enfants, notamment des travaux forcés?
Oui, madame Ibana, parce que je peux dire que oui, parce que de nos jours, je vois quand même les enfants qui partent à l'école à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans, même les enfants issus de parents qui ne sont pas aisés, ces parents font quand même l'effort d'amener les enfants à l'école. Et suite à cette situation, je veux dire que ce phénomène les gens en train de prendre conscience de la maltraitance des enfants ici au Cameroun.
Merci Aliou de nous avoir appelé pour ce témoignage. Léa, ce livre où vous racontez votre histoire, c'est vous qui l'avez voulu, hein. C'est bien vous qui avez retrouvé Pierre Gemme à côté de vous dans le studio, votre ancien instituteur, pour lui demander de l'aide. Pourquoi ?
J'avais pas forcément d'idée précise. Au début, je voulais juste le revoir, puisque mes premiers livres que j'ai lus très tôt, mes premiers romans, ça a été les siens. Ça a été aussi mon premier instituteur de maternelle. Et puis, oui, je sais pas, une envie comme ça de pouvoir reprendre contact, puisque j'ai gardé quelques contacts quand même avec mes instituteurs. Et puis, quand on s'est revus à un salon du livre près de chez moi, je lui ai juste évoqué l'envie d'écrire un livre pour parler d'un témoignage. Et puis ça s'est fait après.
Ces enseignants avec qui vous étiez restés en lien, vous ne leur aviez jamais rien dit de la réalité, de ce que vous viviez, de votre enfance, de votre situation lorsqu'ils étaient enseignants?
Non, parce que à cet âge-là, pour moi, c'était encore normal de ce que je vivais. Je suis née là-dedans, on m'a élevée comme ça, alors pour moi, c'est tout à fait normal de ce que je vivais.
Pierre Gemme, vous n'êtes plus enseignant, hein, aujourd'hui, vous êtes devenu auteur de jeunesse. Oui. Qu'est-ce que vous avez éprouvé exactement avec cette rencontre et en enquêtant sur l'histoire de Léa?
Tout d'abord, j'ai été extrêmement ému. Ensuite, un sentiment de culpabilité, parce que quand elle a commencé à me révéler tout ce que je n'avais pas vu à l'époque, évidemment, je me suis senti vraiment responsable, même si je n'étais pas entièrement.
Vous vous souvenez d'elle en tant qu'élève?
Oui, tout à fait. C'était une enfant qui était en bout de banc, qui se tenait comme un petit oiseau fragile, je le raconte dans le livre, qui était très introvertie, qui avait visiblement une souffrance en elle. Mais à l'époque, j'avais d'autres enfants avec des marques visibles de maltraitance. Et donc, il y avait une espèce de priorité, de hiérarchie que j'avais établie dans la maltraitance, alors que j'ai compris après, notamment avec à la suite de ce travail, qu'il n'y avait pas des maltraitances, mais une seule avec plusieurs degrés. Voilà.
Vous parlez dans votre livre d'une modification du seuil de tolérance.
Absolument.
Quand on est enseignant, qu'on a plusieurs enfants chaque année qui sont victimes de maltraitance, qu'au bout d'un moment, il y a cette modification du seuil de tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Le seuil de tolérance, c'est que effectivement, au bout d'une après 30 ans d'enseignement, si on reprend les chiffres de l'enfant bleu, on a 5 enfants qui sont maltraités dans une classe de 30. Donc ça, c'est une moyenne. Et parmi ces 5 enfants, il y en a un qui subit des abus, donc des abus sexuels. Donc en 30 ans de carrière, j'ai vu un grand nombre d'enfants. Et mon attention se portait justement sur cet enfant qui subissait des abus, au point de ne plus finalement voir ou ressentir ou détecter un mal-être, une maltraitance qui n'avait pas de signes visibles, c'est-à-dire des coups, des marques, des brûlures. Voilà.
Léa, vous n'avez pas été victime d'abus sexuels de votre père. Vous avez été victime d'abus sexuels, d'agressions sexuelles plus tard à l'adolescence par le conjoint de votre mère. Mais vos enseignants n'ont jamais dénoncé les conditions dans lesquelles vous viviez. Est-ce que vous vous êtes beaucoup posé la question sur ce pourquoi ils n'ont rien vu, rien dit?
Déjà, ils n'ont pas pu dénoncer parce qu'ils ne savaient rien, je pense. Ou ils ne devaient pas forcément se douter. Après, pourquoi ils n'ont rien vu? Je pense que les classes déjà surchargées, il faut s'occuper beaucoup d'élèves. On ne peut pas tout voir.
Surchargées 25 élèves
25, 30. Et puis, 30, moi, j'ai été dans des classes où on est monté à 35, 37 élèves par classe. C'est énorme, je trouve. quand il faut gérer 37 élèves, et puis s'il faut déjà les gérer, si en plus on doit regarder si dans leur vie à côté tout se passe bien avec leurs parents, ça devient ingérable.
Qu'aurait-il pu voir éventuellement de vous à l'époque ?
À l'époque.
Est-ce qu'il y a des moments où il y avait un regard, il y avait quelque chose où vous attendiez des questions ?
Non. Plus vers au niveau de l'école primaire ou collège, j'attendais, mais au niveau maternel, non.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, qu'on comprenne bien, quelle a été votre enfance, dans quelle situation sanitaire vous viviez, dans quelle maison vous habitiez ?
Déjà, c'était une maison très insalubre, qui était au bord de la route. Donc, on n'avait aucun terrain de jeu. Bon, après, ça, c'est autre chose. On avait des chiens, des animaux. On avait une vache également, chez nous. On avait ma mère qui était absente, puisqu'elle travaillait énormément pour avoir de l'argent, pour nous assurer financièrement. Un père, donc, alcoolique, ce qui faisait qu'on avait, par exemple, deux frigos. On avait un frigo juste pour son alcool et un frigo pour la nourriture. C'était pas ma chambre, il n'y avait aucune fenêtre. Je vivais vraiment dans... C'était un grenier avant. C'était un grenier où il a rajouté quatre murs en placo et je dormais là-dedans. Au niveau de la nourriture, on n'était pas forcément riche en nourriture et c'était mon père qui était prioritaire. Donc lui mangeait et après nous, on finissait, enfin on prenait ce qu'il y avait en reste. Déjà, je devais également faire le rôle de ma mère. Et ça, c'est dur parce que je rentrais du collège, je me rendais compte que mes sœurs n'étaient pas là, ils les avaient laissées à l'école, ils les avaient oubliées, donc il fallait courir les chercher, il fallait faire à manger le soir pour telle heure. Si c'était deux minutes après, j'avais des représailles. C'était que des choses comme ça. Et c'est plein de petites choses, mais au fur et à mesure...
Quand vous parlez d'une maison insalubre, ça va jusqu'à dormir avec des rats quand même,
oui,
la nuit.
Oui. Oui.
Votre mère a-t-elle tenté à un moment donné de vous protéger ?
Elle l'a toujours plus ou moins fait, mais je pense qu'elle a également pris conscience, c'est au moment où elle a commencé à sortir et à faire des activités, comme elle a commencé la musique, et c'est là qu'elle a vu que c'était pas tout normal ce qu'on vivait.
Le contact avec le monde extérieur,
voilà,
c'est
exactement.
À partir de là qu'on se rend compte.
Moi aussi.
Dans quoi
c'est
on
à ce moment-là.
C'est ça.
Oui, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où l'enfant comprend, il y a quelque chose de très important que Léa évoque. C'est ce sentiment que tout est normal. C'est-à-dire de vivre des choses qui sont absolument traditionnelles. Quand dans le livre, Léa raconte qu'elle dépose une main courante avec sa maman à la gendarmerie et que les gendarmes lui demandent que faisait ton père lorsqu'il était ivre. Elle peut raconter, et lorsqu'il lui demande qu'est-ce qu'il faisait quand il était à jeun, elle se pose.
Là,
vraiment, là, c'est un vertige. Parce qu'elle ne l'a jamais vu à jeun.
Jamais.
Vous n'avez jamais vu votre père dans un état normal.
Voilà.
C'est bien
non,
ça.
À ce moment-là, je m'en suis rendu compte.
Dans un état où il ne vous insulte pas.
Oui, où il n'y a pas des coups. Puis il y a aussi un événement, une menace de mort avec arme à feu. Et puis c'est là aussi qu'on commence à se dire c'est pas trop normal, il y a quelque chose.
Oui, parce que vous n'alliez pas chez des camarades de classe, vous n'avez
non.
pas l'occasion
j'avais
de...
J'avais pas d'amis, en fait, puisque...
C'est le sentiment de honte, de pauvreté aussi,
oui,
qui fait que vous êtes enfermé là-dedans.
Oui, oui, puis il y a un isolement au départ de honte, du fait de la maman. Et ensuite, je pense que le papa prend conscience que les choses vont se savoir parce que l'enfant n'a plus 3 ans, qu'il commence à parler, et l'isolement se fait de manière à...
Alors, la vie normale, c'était à l'école. Hein. Pourquoi, justement, l'enfant ne comprend pas qu'il mène une vie anormale à la maison alors qu'à l'école, on est dans la bienveillance ? Pourquoi l'école aussi se retrouve si peu formée face à ces situations ? Léa, vous avez 18 ans aujourd'hui. Vous ne tenez pas à ce qu'on donne votre nom de famille ni le département en France où vous avez grandi, où vous avez été victime de maltraitance par votre père alcoolique. Et vous avez retrouvé votre ancien instituteur pour écrire ce livre. Parce qu'à deux, on est toujours plus fort aussi. Et pour vous, Pierre Gemme, vous racontez bien ce questionnement qui est omniprésent dans le livre. Pourquoi je n'ai rien vu ? Pourquoi je n'ai rien dit ? Parce que vous aviez déjà, vous rappelez les chiffres en moyenne à l'échelle nationale. Au début de l'émission, vous nous le disiez, il y a en moyenne 5 enfants par classe sur une classe de 30 qui sont victimes de maltraitance. Un enfant par classe qui est victime d'abus sexuels. Et probablement aussi qu'on se focalise beaucoup sur les enfants victimes d'abus sexuels, ce qui n'est pas un tort, mais on oublie ceux qui sont tout simplement, je devrais dire, mais c'est terrible, victimes de défauts d'éducation, de défaillances, d'aucune norme sanitaire, aucun soin. Vous n'avez jamais vu de médecin, Léa, non. Malgré des fractures, malgré les coups, malgré la morsure d'un chien aussi.
Oui, j'en ai encore les marques là.
Vous en avez encore les marques. Et là, on vous emmène pas chez le médecin, par exemple.
Ah non, non, non. Ça s'est passé un mercredi midi, je me souviens.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
12 ans, dans ces eaux-là. Et alors, j'étais en train de débarrasser la table et le chien qui était malade, on était censé le faire piquer, sauf que mon père n'a jamais voulu, m'a mordu. Mais c'était pas la première fois, il avait déjà mordu mes sœurs, ma mère, mais moi, c'était vraiment la plus grave des blessures. Et... oui, il y avait un trou, il y avait
vous
quand
montrez
même...
la cicatrice sur votre poignet.
Ça, c'est la plus grave. Il y en a eu d'autres qui sont un peu moins visibles, mais celle qui est plus visible, c'est la plus grave. Et ça saignait énormément, je me souviens. Et mon père n'a jamais voulu appeler les pompiers ou quoi que ce soit, parce que bon, l'animal était quand même malade, on ne sait pas quelle maladie autre il avait.
Quel était le motif de son refus ?
Bah, puisque tout simplement qu'en fait, mon père, dans son enfance... était un dur, enfin, il a toujours été un dur. Et pour lui, aller aux urgences, aller au médecin, c'est vraiment quand on est au bord de la mort. Et je me souviens, un coup, il s'était coupé un bout de doigt avec une scie, et il n'est jamais allé aux urgences, en fait. Et donc, il n'a jamais voulu que j'aille au médecin ni aux urgences. Et donc, les heures ont passé, et en fin de soirée, j'avais un cours de musique, et c'est là que ma prof de musique m'a dit que c'était pas possible, je pouvais pas rester comme ça. Ça saignait, c'était... La blessure était bizarre, était infectée, c'était...
Et à ce moment-là, l'enseignante ne se rend pas compte que votre père n'a plus de discernement, en fait, pour vous élever, pour ne pas vous envoyer aux urgences, à l'hôpital. Personne ne s'étonne.
Si, mais... Disons que les gens connaissaient un peu mon père, on avait peur, ils savaient pas comment s'y prendre non plus, c'est assez compliqué.
T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu pries entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou, celui qu'on fait chier. Le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix. Mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe, mon texte coupe. L'enfant seul en deux espèces, ceux qui baissent à l'excès, mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent, que je le sache, ça te surprend. Ils matent par la vitre, la solitude qu'ils minent fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas, confondent la rime et l'acte. La fuite et le suicide impact, une promo sans traque, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sale souhait, l'envie de se laisser par le coup pendu pour punir les parents. Pour aimer l'enfant trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise l'incident, sentiment, ciment. Sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui de qui l'on se moqueront comme Coluche. Ou bosse dans le hall au groupe massif. Lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries de gosses des rues couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans père c'est dur, même si la mère persévère. Ça sert mais pas à trouver ses repères c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Pitch t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la Côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce. Heureux, c'est pas son beau-père. L'enfant seul, c'est toi, eux, lui, elle. Oxmo Puccino, voix de Niel. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance.
Comment mieux protéger les enfants victimes de maltraitance? C'est une vraie question à laquelle la réponse est complexe. Daniel, vous êtes en ligne avec nous au téléphone. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à notre invité.
Daniel, vous êtes slameur et votre témoignage nous a intéressé parce que vous avez été contacté par une jeune fille qui a été maltraitée et qui vous a demandé d'écrire un texte pour elle. Alors, c'est pas un livre, mais c'est un texte.
Ouais.
Comment vous a... Oui, racontez-nous comment vous avez été contacté par cette jeune fille.
Ok, merci. Je pense que une fois là, quand la jeune fille a été chassée à la maison par sa marâtre, elle a été invitée par son oncle qui habitait la même commune avec moi. Donc on était dans le même quartier. Et là, par l'intervention d'un ami qui était aussi l'ami à cette fille-là, donc il nous a mis en contact. Tellement qu'on était en contact, cette fille, comme elle avait appris que j'étais slameur, j'écrivais des textes, elle m'a relaté son histoire. Comment est-ce que sa maman, donc sa marâtre, elle a traité de sorcière et puis elle a chassé de la maison.
Ouais.
Et après avoir la chassé de la maison, la fille vivait dans la rue. Pendant une semaine, elle a passé une semaine dans la rue. Elle ne savait pas où aller. Donc c'est après que son oncle l'a récupérée. Et pendant tout ce temps-là, son père était en voyage. Il est né d'une famille très riche, mais malheureusement, sa marâtre ne l'aimait pas. Et c'est comme ça que la fille m'a relaté son histoire. C'était la veille d'une journée culturelle. Elle m'a demandé de mettre par écrit toute son histoire. Donc, essayer un peu de faire un texte comme ça. Elle va déclamer ça devant ses amis. Question de se défouler un peu, d'exprimer ou de faire transmettre toutes ses émotions aux autres personnes. C'est ça qu'elle a fait les jours de la journée culturelle. En tout cas, tout le monde était en larmes. Même moi, là où j'étais, elle m'avait aussi invité. Je ne me suis pas contenu, en tout cas, j'étais aussi en larmes. Donc, elle avait vraiment exprimé toute son émotion à travers ces textes-là.
Mais est-ce qu'ensuite vous vous disiez tous, mais comment se fait-il que personne n'ait rien pu faire durant ces années?
Bon, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. J'ai juste intervenu à travers mes textes, à travers mon texte, lorsque je lui ai rencontré. En tout cas, auparavant, je ne savais même pas son histoire.
Ouais. Merci de nous avoir appelé, Daniel.
Moi, je voulais réagir parce
Pierre
que effectivement, Daniel, vous avez exactement eu le même parcours que moi. Moi, j'ai aidé cette jeune fille à écrire un livre, et vous, vous l'avez, vous aidez cette jeune fille à écrire un slam, et cela participe alors aussi à leur reconstruction. C'est vraiment quelque chose d'important.
Oui, voilà. Donc, parce que c'est aussi le seul moyen, je dirais. On a l'impression aujourd'hui que de se faire entendre, Léa, c'est par ce livre-là. Alors que il y a tout de même en France des cellules de recueil et d'évaluation des informations préoccupantes. Il y a la loi de 2007 sur la réforme de la protection de l'enfance. Il y a des enquêtes des services sociaux. On peut saisir la justice. On peut faire un signalement au procureur. Alors pas vous, lorsque vous aviez 8 ans, mais les adultes qui vous entouraient tout de même. On a l'impression qu'il n'y a que ce livre de possible pour vous, pour vous reconstruire.
Je me souviens, la toute première psychologue que j'ai vue, à la demande de ma maman, j'étais à l'école primaire, en CM1 ou CM2, et je lui ai expliqué ma vie, comment ça se passait chez moi, tout ça, et elle m'a répondu, c'est tout à fait normal, il y a pire. Alors du coup, je me suis dit, alors c'est moi qui amplifie les choses, en fait.
Vous en restez encore sans voix.
Alors,
presque.
Oui, maintenant, quand je vois réellement, parce que moi, sur le coup, je me suis dit, c'est moi qui amplifie, en fait. Et puis, du coup, j'ai laissé tomber.
Quelque part, c'est ce qu'on retrouve aussi au niveau des enseignants. C'est qu'il y a des services sociaux qui sont débordés, des procureurs qui sont débordés. Et qui, vont se mettre...
Tant que la vie de l'enfant n'est pas en danger imminent.
Et encore, parfois, parce que le problème en France, c'est qu'effectivement, on privilégie l'aide, ce qu'on appelle l'aide parentale, c'est-à-dire une aide aux parents, aux familles, plutôt que de, d'intervenir directement et de sortir l'enfant de sa famille. Donc là aussi, il y a un dysfonctionnement.
Mais en l'occurrence, vous n'aviez pas d'aide parentale. Il n'y avait pas d'aide sociale qui pouvait aider vos parents à devenir de meilleurs parents.
Non. Après, on a vraiment été, on nous a vraiment aidés au moment où, où mon père a fait cette menace de mort avec arme à feu. C'était un soir, j'ai appelé ma mère pour la prévenir.
Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ?
Alors, il était au bout de... Alors, c'était un truc... Il était au bout de la table, moi je pliais du linge, il regardait la télé, moi j'étais à l'autre bout de la table, je pliais du linge, je lui regardais la télé, pardon. Et ma sœur va chercher des petites bûchettes dans le garage. Et elle en fait tomber une sur le pneu de son quad. Donc ça l'a pas abîmé ni rien, il n'y a rien du tout. Et elle lui dit quand même juste en revenant du garage. Et là, il s'est énervé, il a dit qu'il allait nous envoyer derrière. Derrière, c'était le cimetière qui était pas loin de chez nous. Qu'il est même quitte à ce qu'il aille en prison, moins là-bas, il serait nourri, logé et blanchi, c'est les propos qu'il a eus. Que l'arme, il savait où elle était cachée dans la maison, tout ça. Donc j'ai appelé ma mère, enfin il y a eu... Il y a eu les procédures et seulement quelques jours après, on nous a enfin dit, bon bah, une assistante sociale qui est venue, bah, vous prenez le maximum d'affaires que vous pouvez et on vous met en logement d'urgence avec votre maman. Mais s'il n'y aurait pas eu ça, est-ce qu'on y serait encore ?
Voilà. Ça a duré jusqu'à 14 ans et demi. Léa, vous dites que vous avez longtemps redouté de reproduire le père. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Vous écrivez ça dans votre livre. Parler comme lui, les insultes.
Oui, vis-à-vis de tes sœurs, tes petites sœurs.
Essayer de... En fait, c'était pas comme des représailles, comment dire. Et à un moment donné, où ma sœur s'est rebellée. Et moi, j'ai suivi, en fait. Elle a commencé, elle aussi, à insulter, à essayer de le taper. Elle était petite. Hein. Et moi aussi, j'ai enchaîné. C'était moins d'un an avant qu'on parte. Mais j'ai exactement fait pareil, en fait. Il voulait être menaçant avec moi, et je faisais pareil. Il me frappait parce que la nourriture que j'avais faite était la même que la veille, je faisais pareil. Je lui lançais la poêle, je faisais pareil, exactement pareil. Il n'y avait plus le surnom, enfin, le prénom papa. Le surnom. Parce que nous, déjà, nous-mêmes, on n'avait pas de prénom chez nous. Hein. C'était que des insultes. Donc, nous, on faisait pareil. C'était donnant-donnant, du coup.
Une reproduction du schéma familial.
Mais volontaire, c'était volontaire.
De la famille.
Ça
quoi.
Veut dire que l'ambiance à la maison, ce n'était que des cris.
Ah
de
oui,
la haine,
ça a été ça. C'était des cris, c'était des odeurs d'alcool, de tabac, de la haine, des
personne,
insultes.
Personne, aucun voisin.
Si, les voisins savaient.
Les voisins savaient tout.
Et tout, je ne sais pas, mais il savait parce que quand on avait besoin d'aller se réfugier, quand on sentait que la tension montait trop, et on savait que la porte était ouverte. Donc il savait.
Et pourquoi les voisins, eux-mêmes, n'ont rien fait, à votre avis ?
La peur.
N'ont rien dit ?
La peur ou...
La peur parce que votre père était armé ?
C'est quelque chose de sérieux. Aussi, mais quand c'est quelque chose de sérieux, les gens, ils se taisent en fait, ils ne vont pas aller dénoncer.
Du côté des enseignants qui sont de plus en plus confrontés à une défiance des parents, voire même d'ailleurs des insultes hein, parfois, quels que soient les milieux, des menaces, est-ce que ça complique le signalement pour les enseignants ou pour le directeur ou la directrice d'une école ?
Alors je pense pas, parce que lorsque on constate effectivement qu'un enfant est en danger, il n'y a pas de peur à avoir, on intervient. Voilà. Le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on intervient, et avec qui, et comment. Et là, je pense qu'on n'est pas du tout outillé, armé, en tant qu'enseignant, pour effectivement signaler des enfants, les procédures sont lentes. Les personnes qui peuvent nous aider, qui sont ce qu'on appelait autrefois les RASED, les réseaux d'aide spécialisés aux enfants
en
difficulté.
Léa a d'ailleurs
sont,
vu une psychologue dans ce réseau d'aide.
Donc sont de plus en plus rares, hein, pour des raisons financières. Et donc on ne sait pas la procédure, même la procédure de signalement est longue. Là, j'intervenais récemment dans un ESP, c'est-à-dire une école de formation des futurs professeurs des écoles, où effectivement, je leur ai demandé s'ils avaient une formation sur la détection de la maltraitance, oui. Sur comment monter un dossier de signalement. Mais non, voilà, on n'a pas
les
ça.
Les directeurs d'école non plus n'ont pas la fiche qui appelait, comment se passe le signalement au procureur,
bien sûr,
les cellules de recueil et d'évaluation des informations préoccupantes.
Alors,
c'est bien balisé pourtant dans les textes de l'administration française.
On l'a, mais l'aide pour monter ces dossiers n'est pas forcément présente. Alors j'accuse pas du tout l'éducation nationale ni aucun corps de métier, mais je pense qu'on ne se penche pas assez sur ce fléau, et on n'a pas les outils. Et ensuite, le signalement, la procédure dure très très longtemps. Donc moi, j'ai des collègues qui préfèrent appeler le numéro, le 119, d'urgence et
anonymement,
de façon anonyme, oui, parce qu'ils savent que cela va aller plus vite qu'en passant par la procédure habituelle. Donc là, il y a vraiment un dysfonctionnement. Ouais.
Est-ce que vous pensez, Léa, qu'on est encore dans une société où, finalement, chacun doit se mêler de ce qu'il regarde ? Et que ça aussi, c'est pas simple pour aider les enfants maltraités ?
Bah, les gens se mêlent de ce qu'ils leur regardent que seulement quand ça les arrange, en fait. C'est simplement ça. Parce que là, ma situation à moi, beaucoup de gens, je veux dire, l'ont vu, mais personne n'a réagi. Parce que, peut-être ça leur faisait peur, je sais pas, et puis c'est quelque chose d'important.
L'interdiction de la fessée en France n'est toujours pas effective dans la loi. Il y a eu un vrai débat politique sur la protection de la vie privée, la liberté familiale d'élever ses enfants. C'est ce qui fait que ça tombe pas sous le coup de la loi, contrairement à d'autres pays en Europe, la majorité d'ailleurs.
Pierre Jem. Oui, c'est évident que là, on a toute une modification de la loi qui va dans le bon sens. Mais maintenant, à côté de ça, on passe à côté de choses qui sont de cas de maltraitance vraiment très, très élevés. Et ça, c'est assez paradoxal, vraiment.
On donne la parole à un auditeur qui nous appelle au standard, au 33 1 84 22 71 71. Mmh. Raymond nous appelle de Libreville, au Gabon. Bonjour Raymond.
Bonjour madame.
On vous écoute Raymond, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Ah d'accord. Tout d'abord, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
C'est vraiment avec un air presque heureux que je suis l'émission. Moi, pour ma petite histoire, à l'âge de 9 ans, j'ai perdu ma mère. Et j'ai un père qui a comme profession, c'est un militaire, qui ne restait presque pas à la maison. Donc, imaginez le calvaire que j'ai vécu avec sa nouvelle femme. C'est-à-dire tout ce qui était boulot domestique qu'un homme et une femme pouvaient faire. Ces tâches-là étaient dédiées à moi, c'est moi qui faisais tout. Je dormais, je me réveillais tôt, je dormais tard. Et même les travaux champêtres, je n'avais pas de vacances à passer.
Vous alliez à l'école en même temps ou pas, Raymond ?
Bien sûr.
C'est ça, vous faisiez tout exactement comme Léa, en fait, qui se levait très tôt, terminait très tard le soir pour s'occuper de la maison, de la cuisine, le ménage, tout. Tout en allant à l'école.
Ce qui est bizarre, j'avais les meilleures notes par rapport aux enfants qu'elle a eu dans son mariage.
Ouais.
J'avais les meilleures notes à l'école, malgré la maltraitance et autres. Et puis, aujourd'hui, moi, j'ai quand même pris le côté positif de la chose, parce que tout ce que j'ai vécu comme maltraitance dans la vie m'ont servi quand même d'étendard pour pouvoir faire face à la vie. Mm. Et aujourd'hui, je gagne ma vie tranquillement. J'ai une famille, j'ai trois enfants. Donc,
vous ne les élevez pas de la même façon, Raymond ?
Non, moi j'ai pris le côté positif de la chose. Mm.
Merci Raymond de nous avoir appelé. Léa, je pense que vous avez envie de réagir. Comment avec cette expérience terrible que vous avez vécue, comment vous vous construisez aujourd'hui ? Est-ce que parfois vous vous imaginez en future maman ?
Oui.
Quelle mère serez-vous ? C'est une question que vous vous posez.
Déjà, je ne donnerais pas la même éducation que j'ai reçue vis-à-vis de mon père. La protection est... Oh, je sais pas, parce que j'ai pas d'enfant.
Vous êtes encore jeune, hein, vous avez 18 ans. Est-ce que vous avez entamé une procédure judiciaire contre votre père et puis aussi contre le conjoint de votre mère qui vous a agressé sexuellement ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Donc c'est en cours. Ça a été difficile pour vous ?
C'est fini. Enfin, pour mon ex-beau-père, c'est fini, puisque ça a été classé sans suite par manque de preuves. C'est comme ça. Et puis pour mon père, c'est fini plus ou moins. Je ne le vois plus depuis mes 14 ans.
Mais il a fait l'objet d'une condamnation judiciaire ?
Oui. Pas de prison ni rien, mais il a eu des obligations, du sursis.
C'est une peine trop légère, selon vous?
Oui.
Moi, je ne veux pas me prononcer parce que je me suis toujours demandé ce que cet homme avait vécu pour en arriver là.
Ah oui,
et
c'est sûr,
évidemment, je ne peux pas en parler comme ça. C'est vraiment Léa. Ensuite, c'est ça. Mais effectivement, dans le livre, comme je le dis dans le livre, qu'est-ce que cet homme a vécu? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête?
Et vous pensez, Léa, que la justice aujourd'hui, donc la société, parce que la justice, c'est la société, est beaucoup trop clémente par rapport à la maltraitance des enfants?
Je pense, oui. Après, il y a aussi des choses en amont qui ne sont pas prises en charge. Parce que si mon père aussi était comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose aussi dans son enfance qui se répercute maintenant en étant adulte? C'est ça que j'avais peur également, c'est que... dans ma vie d'adulte, enfin plus tard, avec ma vie de famille, mes enfants, est-ce que moi, inconsciemment, je ne reproduirais pas ça sur mes enfants?
C'était l'objet de ma question tout à l'heure. Est-ce que vous avez peur de devenir une mère maltraitante?
Je ne pense pas, puisque bon, j'espère pas. Puisque j'en ai conscience maintenant. Mais...
En tout cas, merci à tous les deux d'être passés dans le studio. Il faut lire vraiment ce très beau dialogue entre vous, l'instit et l'enfant. Pourquoi n'avez-vous rien vu? Pourquoi n'avez-vous rien fait? Ce sont des questions lancinantes qui concernent toute la société. Mmh. Et c'est paru aux éditions Plomb. Mmh. Merci à vous, Léa.
Merci.
Et puis bonne chance pour le concours de pompier professionnel.
Oui.
C'est le rêve de toute une vie.
Oui.
Merci à vous, Pierre Gemme.
Merci à vous.
Dans quelques instants, on sera en ligne avec l'ONG Plan International qui publie un rapport. Les droits des filles sont des droits humains. Le constat de ce rapport, c'est que les filles de moins de 18 ans sont invisibles dans le droit international. On en parle dans quelques minutes, juste après Émilie Simon. On est en ligne à Genève maintenant avec Anne-Sophie Loïs, représentante auprès des Nations Unies de l'ONG Plan International. Bonjour Anne-Sophie Loïs.
Oui, bonjour.
Est-ce que je prononce bien votre nom de famille? J'ai un doute tout d'un coup.
C'est parfait, c'est excellent.
Votre ONG Plan International vient de publier un rapport. Les droits des filles sont des droits humains. C'est vrai qu'on a longtemps parlé des droits de l'homme, mais le constat de ce rapport, c'est que les filles de moins de 18 ans sont invisibles dans le droit international. Moi-même, je ne m'en étais jamais réellement rendu compte d'ailleurs.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça, en fait, on voulait voir quel était le statut des filles dans le droit humain. Et c'est pour ça qu'on a fait cette grande étude. Et on voit que les filles sont confrontées à la discrimination et aux abus simplement parce qu'elles sont jeunes et de sexe féminin. Puis à chaque étape de leur vie, jusqu'à l'âge adulte, les filles subissent des préjudices manifestes dans l'éducation, la santé, le travail et à la famille. Et c'est justement découlant directement de cette double discrimination, donc d'être jeune et de sexe féminin.
Et donc on parle en général dans les textes des femmes, il faut protéger les femmes, c'est ça?
Exactement, c'est pour ça qu'on a vu que donc, les droits internationaux n'adressent pas suffisamment l'obstacle confronté par les filles. Là où les filles sont mentionnées, par exemple, les références ne font que d'ajouter simplement les filles aux autres catégories. On parle des enfants, adolescents, jeunes ou femmes, on laisse les filles aux marges des droits des femmes et des droits d'enfants.
Alors, vous rappelez des chiffres qui sont évidemment assez édifiants concernant ces filles, donc ces jeunes filles. Chaque minute, 28 mineurs sont mariés dans le monde. Plus de 3 millions sont excisés chaque année. 131 millions de filles ne sont pas sur les bancs de l'école.
Tout à fait. Ça, c'est des chiffres. Et maintenant, il faut arrêter de seulement parler. Mmh. Il faut agir. Il faut agir et changer. Notre contribution avec cette étude, c'est voir que si on parle des politiques publiques pour faire des changements, il faut mentionner la catégorie qui est la plus discriminée dans le monde. Si on ne mentionne pas, s'ils ne sont pas visibles, on ne peut rien faire.
Alors ça veut dire que vous voulez changer les textes, la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Vous voulez changer ces textes-là, les modifier, qu'on lise enfin le mot « fille » ?
Non, en fait, je pense que d'ouvrir ça, ça ne va pas être politiquement opportun de faire. Par contre, il y a les autres textes, les interprétations des textes qui se développent. Là, oui, on peut le mettre dedans. On peut le mettre dedans, on va parler aussi avec les différents comités pour les droits de l'homme, pour les droits des enfants et aussi celle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le CEDAW. On aura une discussion avec ces comités-là pour voir de quelle façon on peut emmener l'aspect psy beaucoup plus large. Mmh. Et c'est aussi vrai, ces comités-là, dans leurs recommandations aux États, ils parlent aussi de filles. Mmh. Mais c'est spécialement dans le droit où on aimerait que ça se manifeste beaucoup plus clairement et évidemment dans les programmes. Mmh. Dans les programmes sur le terrain, parce qu'on opère dans 71 pays, 71, je pense qu'on dit en français.
Oui, oui. Vous parlez tout à fait français, vous aussi, d'ailleurs. Il y a deux versions, oui. 71
exactement,
pays. Mais aujourd'hui, quels sont les principaux freins, en fait, pour qu'on mentionne spécifiquement les discriminations dont sont victimes les filles en tant que filles mineures ?
Non, mais je pense qu'une des choses qui est importante ici, les droits des filles sont souvent considérés comme controverses. Comme par exemple, quand on parle des droits sexuels et reproductifs, ces droits-là ne sont pas mentionnés ou que rarement dans le droit international. Par conséquent, le droit d'une fille à décider ce qu'il arrive à son propre corps, quelle épouse,
à quel âge elle veut se marier,
exactement, etc., c'est pas systématiquement adressé. Et ça, c'est très important.
Au nom de quoi ? De traditions culturelles, religieuses ?
C'est parce que c'est les négociations des standards et des textes internationaux, c'est un processus très politique. Et c'est cet aspect politique et l'une des raisons principales pour lesquelles les accords internationaux manquent de cohérence pour les filles et pour la protection à leurs droits.
Donc maintenant, il va falloir voir tout ça sur le terrain, comment ça va se traduire et si les filles vont devenir visibles dans le droit international. Merci beaucoup Anne-Sophie Loïs d'avoir été en ligne avec nous de l'ONG Plan International. Le rapport est en ligne, il est à retrouver sur notre site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Très bonne journée à Genève.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. N'oubliez pas aussi que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine et puis nous retrouver aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous êtes plus nombreux chaque jour et ça nous fait très plaisir parce que c'est vous aussi qui faites l'émission en nous appelant chaque jour dans l'émission. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission Éducation. Comment motiver les adolescents dans leur travail scolaire ? Conseil pour les parents en déroute avec des spécialistes de l'adolescence. À demain les voisins et les voisines.